voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Éduquer, c'est transmettre à la génération future un ensemble de connaissances, de valeurs et de compétences faisant partie d'une culture commune. Les méthodes d'enseignement et d'éducation sont aujourd'hui largement remises en question. Dans le cadre d'une série d'émissions La Voix du Kaizen sur le thème de l'éducation, j'ai rencontré Sophie. Maman de deux enfants, Sophie s'est rapidement posé la question de l'école. En essayant de trouver ce qui lui paraissait être le mieux adapté pour ses filles, Sophie s'est lancée dans la création d'une école démocratique. Dans cette émission, Sophie nous explique le concept de cette école.
Donc effectivement, j'ai lancé un projet d'école démocratique dans le 95. Donc c'est vraiment tout récent, ça date de janvier en fait. Et j'avais un projet déjà d'ouvrir une association. Mais alors à la base, c'était vraiment plus pour des familles en difficulté, un petit peu comme les Maisons Vertes de Françoise Zolto. En fait, qui partent sur le principe d'accueillir des familles et des enfants de façon participative et qui participent à la vie en fait de la crèche. À l'époque, c'était plutôt pour des crèches. Et aujourd'hui, mon parcours dans l'éducation spécialisée, moi, je suis éducatrice spécialisée, donc en fait, c'est de là qui est partie cette idée-là. Et aussi mes filles, parce que j'ai deux filles qui à partir d'un moment, c'est vrai qu'on nous pose autour de nous toujours les mêmes questions, c'est-à-dire dans quelle école elles vont aller. Elles ont à peine un an qu'on se pose déjà la question de savoir quand est-ce qu'elles vont aller à l'école, parce qu'on peut rentrer à l'école à partir de deux ans et demi en fonction des écoles privées. Il y a des écoles privées comme Montessori qui accueillent des enfants très jeunes. Et ça m'a fait vraiment tout drôle en fait de me positionner déjà alors qu'elles étaient si jeunes et qu'elles apprenaient les choses de la vie par elles-mêmes en fait sans avoir d'enseignants ni de professeurs, juste par elles-mêmes et par un cadre et un environnement bienveillant de la maison en l'occurrence. Et donc je me suis dirigée vers d'abord les pédagogies Steiner et Montessori. Je me suis renseignée autour de chez nous, voir s'il n'y avait pas des écoles qui pourraient accueillir nos filles.
Mais donc là c'est en tant que maman, hein, donc c'est étant maman, tu t'es posé la question de tes enfants, comment tu allais faire, dans quelle école tu allais les mettre. Et c'est vraiment ça qui t'a amené à t'interroger sur les différents types de pédagogie.
Je me suis posé beaucoup de questions sur l'éducation, sur les écoles, ce qu'on proposait aujourd'hui en France. Et je me suis rendu compte que c'était toujours très cher et aussi beaucoup pour des parents qui avaient cette possibilité-là aussi de payer des scolarités ou se serrer la ceinture pour pouvoir payer les scolarités qui sont chères malgré tout.
Sophie, pourquoi pour toi c'est important de réformer, de repenser l'éducation? Qu'est-ce qui t'a amené à mener cette réflexion? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut revoir certains codes?
Et en fait, c'est en lien direct avec la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que si on veut que les adultes de demain soient responsables de la société qui les attend en fait dehors, il faut qu'ils puissent l'intégrer déjà tout petit, et c'est une chance en fait pour eux de pouvoir intégrer ces écoles-là parce qu'ils sont directement acteurs et c'est eux qui font leur choix de vie et ils réfléchissent. C'est des enfants qui sont en fin de compte dans une réflexion qu'ils ne peuvent pas avoir dans une école publique ou privée sous contrat ou hors contrat aussi. On leur demande pas d'apprendre par cœur, on leur demande pas de savoir des choses à tel âge, on leur demande pas d'apprendre aussi à écrire à partir de 6 ans. Ça viendra quand ça viendra et c'est en fonction vraiment de leur envie et de leurs besoins. Donc à partir de là, ils arrivent aussi à avoir cette confiance en eux qu'ils perdent au fur et à mesure souvent et malheureusement dans les écoles publiques. Donc cette confiance en eux confiance qu'on leur donne nous, ils vont l'intégrer aussi. Ils vont avoir beaucoup plus de respect aussi dans les relations avec les autres parce que cette liberté-là qu'on leur propose, il faut qu'ils puissent aussi la laisser aussi aux autres. Donc ça veut dire prendre en compte l'autre, donc être beaucoup dans l'empathie, dans l'aide, dans la coopération, monter des projets ensemble. C'est quelque chose qu'on retrouve après dans la société, qu'on a vraiment envie en fait que ces enfants-là soient touchés et sensibilisés à ça. Donc je me suis dit, il y a peut-être autre chose qui existe. Et puis au jour d'aujourd'hui, en ayant découvert les écoles démocratiques qui n'appliquent aucune pédagogie en fait, hein, c'est vraiment basé principalement sur la confiance en fait qu'on donne aux enfants et cette liberté qu'on leur donne en fait tout au long de la vie. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on les couperait de ça parce qu'ils rentrent dans une école, non? Et donc je me suis intéressée vers ces écoles-là. J'ai participé à un forum de DEC qui représente les communautés européennes des écoles démocratiques en France.
Est-ce que tu peux me définir un petit peu ce que c'est qu'une école démocratique?
Alors une école démocratique, c'est une école qui propose un environnement riche, à la fois sur le matériel mais aussi sur le plan humain. Pour tout niveau, ouais. C'est une école qui accueille des enfants, donc ça dépend des écoles, mais si on prend exemple sur le modèle Sudbury, de la Sudbury Valley School en fait, qui date de plus de 50 ans aujourd'hui. Ils accueillent donc les enfants entre 3 et 19 ans. Et en France, on accueille les enfants dans les écoles démocratiques entre 3 et 19 ans. Voilà. Ça, c'est un peu la. Donc, c'est une classe. Donc, il n'y a pas de classe en fait. Enfin, c'est une classe multi-âge, comme on pourrait dire. Et donc, les enfants sont libres de choisir leur emploi du temps, leur rythme scolaire dans leurs apprentissages. Et puis, cette liberté-là, ils l'ont aussi dans un cadre qui fonctionne avec un conseil de justice et un conseil d'école. Une fois par semaine, il y a un conseil d'école et en général, tous les jours, un conseil de justice. Donc en fait, ces deux choses-là sont les organes principaux qui caractérisent vraiment l'école démocratique. C'est-à-dire que c'est grâce à ce conseil d'école-là que les enfants vont pouvoir être acteurs et responsables dans l'école. C'est eux qui vont co-gérer vraiment l'école, dans le sens où ils vont définir, avec nous aussi, hein, tous les membres ensemble, on définit le règlement intérieur. Donc, en fait, il y a un règlement intérieur qui est revu, qui peut être modifié. En fait, il n'est pas figé, il n'y a rien qui est figé. Donc, c'est voté, tout est voté. Chacun a la possibilité de donner son opinion par majorité. Du coup, c'est voté par majorité. Et une fois qu'il est voté, on l'applique et en fonction des difficultés ou pas qui peuvent être rencontrées dans la collectivité de ces écoles-là, on peut déposer une plainte. En fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas et qui dérange la liberté et qui dérange une personne, en fait, on peut déposer une plainte et on accompagne les plus petits pour cette démarche-là parce que ce n'est pas forcément évident d'intégrer cette procédure-là si jeune.
Et donc la plainte peut venir et des enseignants mais aussi des enfants.
Exactement. Voilà, il n'y a plus de hiérarchie en fait, enfin, dans ce sens-là. C'est vrai qu'ils ont leur mot à dire, ils ont, comme nous, en fait, la possibilité de réfléchir à leur vie et aussi du coup à leur vie personnelle et à leur vie ensemble dans l'école. Donc pour ça, on leur donne la possibilité de prendre des choix. Ils font leur choix en fait, mais pas tout seuls, ils font des choix mais ensemble. Et ce sont pas les adultes qui sont là pour proposer les réparations ou les sanctions. Ou dire, voilà, c'est toi qui a fait cette erreur-là, donc c'est toi qui choisis, qui doit être responsable de cette sanction-là. Et non, c'est ensemble, en fait. Donc, tout ça est vu ensemble.
Et ça suit un programme, parce que là, tu parles de différents niveaux d'âge, hein, différents âges, donc c'est vraiment transversal, j'imagine, comme enseignement. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que sont formés les enseignants? Ou qui enseigne, d'ailleurs? Qui sont les enseignants?
Alors, en fait, on parle de facilitateurs dans ces écoles-là. Donc, ce sont des facilitateurs d'apprentissage. Donc ils ne sont pas formés à une pédagogie, ils sortent un petit peu de tout milieu. Enfin, nous, dans notre équipe, par exemple, on a une enseignante qui, pour le coup, elle, ce qui est rigolo, c'est qu'elle n'a jamais scolarisé ses enfants. Donc elle a pratiqué le homeschooling, ce qu'on appelle le homeschooling, mais elle était enseignante. Et elle a vu les limites aussi dans ses propres ressentis en tant qu'enseignante. Et elle a décidé de nous suivre dans l'aventure. Mais on a aussi un ingénieur donc, qui n'a pas du tout de formation à enseigner. Un praticien bien-être qui est aussi artiste. Enfin, moi qui suis dans l'éducation spécialisée et aussi musicothérapeute. Et puis une autre personne qui plutôt travaillait dans le commercial. Enfin, voilà, donc, en fait, nous, on est là vraiment pour veiller à la sécurité de ce cadre bienveillant et de veiller aussi à ce que cette liberté-là soit respectée. On est en même temps là pour apprendre, c'est-à-dire qu'on apprend tous ensemble. On va être là pour leur proposer aussi des choses si jamais ils ont besoin d'être renseignés ou informés. Ou qu'on, voilà, on va répondre à leurs demandes. Voilà. On n'est pas là pour leur dire c'est bien ou pas bien, je te note par rapport à quelque chose que j'ai vu. Non, mais on doit suivre effectivement le socle commun des compétences et des acquis, voilà, les fondamentaux en fait doivent être respectés. L'éducation nationale On est quand même en lien avec eux. On a une inspection par an en général. Ils viennent pour vérifier que les enfants évoluent bien et qu'ils sont épanouis surtout.
Et donc ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que des citoyens qui ont des compétences et qui souhaitent les associer peuvent très bien se monter en association et créer une école.
Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vraiment compris et qu'on véhicule toute cette démarche-là, cette philosophie-là qui garde vraiment ce principe que les enfants ont comme tout être humain la possibilité de grandir et d'apprendre les uns avec les autres, on peut effectivement se lancer dans une école, démarcher en fait un lieu pour pouvoir ouvrir une école.
Ouais. Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc en fait, c'est plus un état d'être ou un état de pensée, quoi. C'est suite à une réflexion, à un développement personnel, un travail fait sur soi, une réflexion qu'on mène, qu'on se dit, bah voilà, on va essayer de faire autrement, on cherche les copains ou les compétences qui pourraient permettre de créer cette école, on cherche un local et après c'est parti. Mais alors, qui sont les enfants? Quels vont être les parents qui vont mettre leurs enfants dans une école démocratique? C'est complètement nouveau et révolutionnaire comme concept.
Oui, c'est tout à fait nouveau, en tout cas en France, hein, c'est tout à fait nouveau. Mais effectivement, ça demande un vrai travail sur soi. Donc par rapport à l'équipe, déjà, je pense qu'effectivement, il y a un vrai lâcher-prise. Mais pour ceux qui montent l'école, en général, c'est déjà en chemin depuis un moment, en fait. Ce travail a déjà été fait depuis un moment pour en arriver à ce niveau-là, d'ouvrir une école. Pour les parents, on peut pas demander aux parents... d'appliquer à la lettre le même fonctionnement, mais par contre ce savoir-être et cette philosophie-là qui reste toujours dans la bienveillance et dans la confiance absolue en l'enfant, effectivement c'est quelque chose qui doit vraiment bien comprendre les parents qui intègrent ces écoles-là. Et on veille aussi à ce qu'il y ait un lien et une continuité aussi dans notre philosophie et la philosophie qu'ils peuvent retrouver aussi chez eux ensuite à la maison, quoi, parce que pour pas qu'il y ait non plus de gros décalage, ça a pas de sens en fin de compte. Sinon.
Donc dans une école démocratique, il y a quand même un lien avec l'éducation nationale, vous marchez main dans la main avec des techniques différentes, ou une méthodologie ou une approche, ou une pédagogie différente, mais quand même avec un objectif qui est le même.
Oui, disons qu'on a l'objectif qui est le même sans avoir à demander aux élèves de passer des évaluations, sans avoir à veiller à ce qu'ils on veille à ce qu'ils suivent tout de même, mais ils le voient pas, si vous voulez. C'est nous, dans nos observations, en fait, en fonction d'une construction ou d'un atelier qu'ils vont monter ensemble, ils vont avoir acquis des compétences. Et on va les retranscrire ensuite dans un fichier qu'on a nous, qui nous aide en fait à retrouver, à relier en fait les compétences. Et avec les acquis qui sont demandés par l'éducation nationale. Et ensuite, ce document-là, on le montre, en fait, on l'expose aux inspecteurs qui viennent ou pas. Ils peuvent le demander ou pas.
Donc vous, en tant que personne référente, facilitateur, donc c'est le terme que tu emploies dans les écoles démocratiques, en tant que facilitateur, il y a une constante remise en question. Tu évolues en même temps que ta classe, en même temps que les enfants, en même temps que tes collègues.
Exactement. Effectivement, c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on est en train de un petit peu réinventer l'école quelque part dans son fonctionnement, et ça demande du coup aussi une adaptation en permanence pour nous, c'est-à-dire que les enfants qui viennent, ils ont aussi envie à certains moments de modifier des choses dans le fonctionnement de l'école, pourquoi pas, et on est là pour avancer avec eux. On se remet en question au quotidien, c'est-à-dire que la cohésion d'équipe aussi est très importante, cette dynamique-là, il faut vraiment qu'on la porte. On représente quand même pour eux aussi quelque part des modèles. Donc il faut qu'ils puissent s'appuyer sur nous. On montre l'exemple un petit peu sans être parfait. Donc c'est vrai qu'on a besoin aussi, nous, en tant qu'adultes déjà matures, on va dire, réfléchir et se positionner au quotidien en alimentant notre réflexion et nos pratiques aussi qui pourraient aider ensuite les jeunes dans l'école.
Et toi, Sophie, à titre personnel, comment est-ce que tu as rencontré ces écoles démocratiques? Quel est ton chemin? C'était dans cette recherche Montessori? Tu as essayé de trouver d'autres outils? Ou comment est-ce que tu en es venue à cette idée de créer ta propre école?
En cherchant sur Internet, j'ai découvert le TED de Ramin, qui lui a ouvert l'école dynamique, donc qui est fondateur de l'école dynamique de Paris. Et de là, en fait, J'ai suivi tout le mouvement sur EDEC, sur les réseaux sociaux et on a suivi des conférences. On sent qu'il y a vraiment en France aujourd'hui une mobilisation et une envie d'ouvrir des écoles vraiment différentes avec une alternative qui est proposée pour beaucoup de parents qui sont dans une recherche autre que du Steiner ou du Montessori qui aujourd'hui est très très connu et devient même presque à la mode, j'ai envie de dire. Là, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir ouvrir le plus possible en septembre d'école. Il y a une vingtaine, même plus aujourd'hui, je crois, une trentaine de projets en cours et qui vont ouvrir normalement en septembre 2017. Donc c'est énorme, partout en France. Voilà. Donc on retrouve sur edec.fr la carte, en fait, qui rassemble tout le réseau des écoles démocratiques en Europe.
Alors, je vais essayer de rentrer un peu dans le concret. Tu choisis de monter une école, hein, donc dans le 9-5, dans le 95, une école démocratique. Une fois que le projet est posé, que tu as trouvé les compétences pour pouvoir mettre en œuvre cette école, il faut trouver un terrain.
C'est ce qui est le plus compliqué en fin de compte, parce que il faut respecter les normes ERP, donc qui sont parfois un petit peu difficiles, surtout quand on se retrouve en banlieue parisienne. Dans Paris, ça peut être plus évident de trouver un local déjà pouvant accueillir du public en fait. Et nous non. Donc du coup, il y a des travaux à faire. Il faut passer par la mairie, il faut rencontrer les représentants. Donc le maire, les architectes aussi, pour qu'ils puissent venir sur place vérifier que toutes les normes sont OK pour accueillir du public.
Une critique que j'entends souvent quand on parle d'écoles privées ou d'écoles alternatives, c'est le côté élitiste, où les parents doivent souvent dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir permettre à leurs enfants de sortir du système public.
Effectivement, aujourd'hui on n'a pas d'aide de l'État, c'est les écoles sont privées hors contrat, donc on n'a aucune subvention de l'État. Donc c'est à nous en fait de tout mettre en œuvre pour avoir à la fois des financements, donc par des mécénats, par des bourses. On peut proposer des bourses solidaires aussi pour les parents, pour les aider en fait à scolariser les enfants. C'est vrai que nous, on peut pas, la première année en fait, malheureusement, on peut pas proposer aux parents un allègement financier. On aimerait par la suite que ça puisse se faire en fonction du quotient familial des parents, ce serait l'idéal. On peut leur proposer aussi pour certaines écoles de participer à la vie de l'école, donc les parents viennent contribuer aussi à l'activité de l'école et à ce moment-là il peut y avoir un pourcentage, une remise sur la tarification de la scolarité des enfants. Mais voilà, c'est vraiment plein de questions, plein de une organisation très minutieuse sur le business plan, sur l'organisation, parce que c'est, malgré tout, ça reste une entreprise en fait, donc il faut pouvoir la faire vivre, et pour ça, au tout début, on demande effectivement une tarification qui n'est pas donnée.
Et je me mets à la place des parents dans un monde où finalement tout est très carré, tout doit rentrer dans une case, dans un système très hiérarchique et pyramidal. Avoir un modèle radicalement différent, quels vont être les parents qui vont oser finalement franchir le pas de mettre leurs enfants dans une école démocratique?
Mais c'est des parents qui ont conscience aussi des difficultés scolaires par retour de leur expérience, soit personnelle, soit de leurs propres enfants aussi, en fait. Donc beaucoup de parents viennent nous voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on a à la fois des parents d'adolescents qui viennent, parce que leurs enfants sont vraiment déprimés, se retrouvent pas du tout dans... Eux, en fait, ils se retrouvent pas du tout, leur identité est complètement perdue dans ces écoles-là. Donc ils se rendent vraiment compte de la tristesse et d'une déprime en fait face à ces adolescents-là. Et puis des jeunes parents qui viennent avec des enfants qui n'ont même pas encore l'âge d'être scolarisés, mais qui se posent des questions aujourd'hui, qui ont beaucoup lu Maria Montessori aussi, qui se renseignent aujourd'hui sur des écoles à pédagogie alternative et qui découvrent sur les réseaux sociaux et sur Internet les écoles démocratiques. Et donc ils s'y intéressent beaucoup et participent du coup à des réunions qu'on organise, des réunions publiques et de rencontres, qu'on puisse s'informer, échanger ensemble et avancer sur la même philosophie. Mais ce sont des parents qui, en général, ont déjà fait un vrai chemin, qui ont encore beaucoup aussi à faire au niveau du lâcher prise, comme tout le monde en fait, parce que c'est pas, rien n'est acquis. Mais en même temps, ils sont optimistes et croient beaucoup dans ces projets-là. Donc ils soutiennent et nous soutiennent beaucoup.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.